Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Il nous arrive parfois de laisser la parole à des invités pour qu'ils nous parlent de leur cheminement spirituel.
Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel invité. Il s'appelle Paul et est enseignant. Il habite avec sa femme et ses 4 enfants dans un petit village près de Lausanne, en Suisse. Il va commencer par nous parler du contexte familial dans lequel il a grandi.
Ma famille avait une ferme dans la plaine du Rhône, dans le canton de Vaud. Et puis là, j'ai grandi très très heureux avec 3 frères et sœurs. Et mes parents avaient vraiment le désir de nous communiquer l'Évangile, que leurs enfants puissent recevoir quelque chose de la foi, de l'Évangile. Mais ils avaient un peu de peine à le formuler. Et dans le village où j'habitais, c'est là qu'en fait, ils avaient une amie qui était ancrée dans la foi et qui était très proche de la famille. Et ils lui ont demandé si elle était d'accord pendant l'hiver de donner comme ça un enseignement biblique, des histoires bibliques, de raconter des histoires bibliques. C'était simplement au flanellographe, mais c'était super. Et là, mes parents étaient très très heureux que nous allions justement écouter les histoires de la Bible chez cette dame.
Ce dont Paul vient de nous faire part nous rappelle à quel point il est important de s'assurer que nos enfants grandissent tout en ayant une bonne connaissance de ce que la Bible enseigne. Car il est fondamental que les vérités bibliques soient enseignées dès notre jeunesse. Cette tâche est de la responsabilité des parents, mais si ces derniers ne peuvent le faire, ils peuvent rechercher de l'aide en envoyant leurs enfants vers d'autres personnes. Ils peuvent aussi encourager leurs enfants à joindre un club ou des réunions où la Bible y est enseignée. J'ai ensuite demandé à Paul ce qu'il avait retenu de toutes ces années d'enseignement biblique reçues auprès de cette femme.
Pour moi, ça a été un début vraiment, une prise de contact avec Dieu. Je crois que j'ai vu Dieu, j'ai compris quelque chose de lui, mais ça n'a pas été décisif. C'est seulement plus tard que ça a été décisif.
Paul relate à présent comment la nourriture spirituelle dont il a pu bénéficier s'est concrétisée par une démarche de foi personnelle.
Une de mes sœurs, ma sœur aînée, a fait un institut biblique pendant une année. Et dans cet institut biblique à Genève, en fait, chaque année, il y avait des conférences à Pâques. Et elle nous a invités, ma sœur et moi, à venir pour ces conférences. Et là, le prédicateur nous a expliqué ce que Jésus avait fait, en fait, il y a bientôt 2000 ans. Qu'il était venu vraiment pour mes péchés, qu'il avait été crucifié à cause de mes fautes. Et on a chanté un chant qui s'appelle « Fraîche rosée », je crois qu'il est connu. Et il nous a dit « Mais depuis votre place, vous pouvez simplement prier et demander à ce que Jésus vienne comme une fraîche rosée dans votre vie. »
Paul explique maintenant la façon dont il a réagi devant cet appel.
Malgré le fait que, comme un enfant dans un village très timide, pour moi c'était impensable si on m'avait demandé avant de prier comme ça, alors qu'il y avait 400 personnes autour de moi ou 450 personnes autour de moi. Et pourtant, je me suis senti seul avec Jésus-Christ. Et je lui ai demandé effectivement de venir dans ma vie.
Nous allons à présent réfléchir sur les fruits que cette prière simple mais profonde a porté dans la vie de Paul.
C'est à partir de ce moment-là que je peux dire que j'ai commencé vraiment à lire la parole de Dieu, la Bible, de manière totalement différente. Et là, un des jeunes qui était à l'école biblique m'a donné un petit livret de méditation quotidienne et j'ai pu lire les versets de la Bible comme par exemple « C'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Et c'est ces versets-là qui m'ont fait énormément de bien parce que c'est parce que j'allais faire qui allait me donner une vie avec Dieu. C'est ce que Dieu allait faire. Et c'est cette grâce-là que j'avais simplement accepté.
Lorsque nous prions, en demandant sincèrement à Jésus d'entrer dans nos vies, le Saint-Esprit ouvre alors nos yeux et nous commençons à comprendre les vérités bibliques comme jamais auparavant. Paul a compris un élément vital de la foi chrétienne. Il a compris la grâce de Dieu. Et je voudrais m'attarder un peu sur ce point, car cette compréhension de la grâce de Dieu change tout, elle bouleverse tout. Elle fait, à mon avis, toute la différence entre une conception mondaine et humaine de la religion et une vraie foi en Christ. Car en pratiquant une religion, quel que soit son nom, les hommes cherchent à accomplir quelque chose de positif pour Dieu. Ils cherchent à gagner sa faveur, sa bénédiction, comme si cela était possible. C'est comme si des actions devaient être entreprises pour persuader Dieu de nous sauver, de nous accepter. En parlant de la grâce, la Bible annonce en premier lieu une mauvaise nouvelle. Nous ne pouvons rien faire pour contribuer à notre propre salut. Nous ne pouvons pas effacer nos fautes en accomplissant de bonnes œuvres. Mais voilà ce que la grâce veut dire. L'amour immérité, l'amour gratuit, l'amour inconditionnel. Et c'est ce que Dieu donne. Notre salut dépend entièrement de Dieu, de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sur la croix. Dans sa grâce, Dieu a choisi de nous sauver, de nous accorder sa faveur, de nous bénir, simplement parce qu'il désire et ardemment le faire. Dieu, dans sa grâce, a payé le prix nécessaire pour nous sauver, pour que nous soyons réconciliés avec lui et pour nous accorder une espérance éternelle. Voilà pourquoi il est venu dans la personne de Jésus-Christ, qui a offert sa vie en sacrifice pour que nos fautes soient pardonnées. Revenons à présent au témoignage de Paul, qui va nous apprendre ce qui s'est passé quand il est retourné chez lui, juste après avoir placé sa foi en Jésus.
Quand je suis rentré à la maison, parce que bien sûr que les conférences ont été relativement courtes, puis c'était 3 jours, mes parents ont commencé à regarder, à se dire « Ah, il s'est passé quelque chose chez Paul, on va voir si ça dure. » Et puis ça a duré. Et puis ils m'ont proposé de faire un catéchisme dans une église évangélique, et c'est du côté de Montreux, et je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
Il est vrai que parfois, sous le coup de l'émotion, suite à un message bien amené, certaines croix se tournent vers Christ, et ils semblent très enthousiastes. Comment savoir alors si notre expérience spirituelle est authentique? Paul nous donne au moins 2 réponses. D'abord, notre foi doit durer, car nous devons persévérer envers et contre tout, quelles que soient les dures réalités de la vie. Ensuite, nous devons avoir soif de connaître Dieu davantage, soif de lire la Bible, sa parole, soif de nous approcher de lui. Il faut aussi que la parole de Dieu porte des fruits réels dans notre vie. Il faut qu'elle change notre conduite là où cela est nécessaire. Et c'est sur ce point que Paul va à présent nous parler.
Alors, je crois que Dieu nous donne une nouvelle nature et nous donne de porter en fait des fruits. Et le fruit qu'il fallait peut-être que je porte le plus, c'était avoir plus de patience. J'étais un peu colérique. J'étais peut-être parmi les 4 enfants, peut-être celui qui était un petit peu plus... un peu soupe au lait. Et là, mes parents ont vu le changement. Et je crois que ça a été vraiment un gros changement pour moi, mais un gros changement aussi pour toute la famille, de voir quelqu'un de très soupe au lait, finalement, pouvoir avoir un peu plus de patience, pouvoir écouter l'autre, alors que c'était peut-être pas toujours ou pas souvent le cas.
Nous avons chacun des traits de caractère qui méritent d'être changés. Oh, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies consiste, entre autres, à nous transformer progressivement afin que nous ressemblions toujours davantage à Jésus-Christ. Tout vrai chrétien devrait aspirer à cette transformation et rechercher l'aide de l'Esprit, sans lequel rien n'est possible. Pour conclure aujourd'hui, Paul va parler brièvement de son expérience en tant que chrétien au collège.
Quand je suis allé à l'école, tout d'un coup, on m'a traité d'un nom que vous connaissez peut-être, tu es darbiste. Et moi, j'étais surpris parce que je n'avais aucune idée à cette époque-là ce que ça pouvait signifier. Alors, quand je suis rentré de l'école, j'ai demandé à mes parents, « Mais qu'est-ce que ça veut dire, darbiste ?» Puis ils m'ont dit, « Ah, mais simplement, c'est une assemblée chrétienne, et c'est des gens qui croient, comme nous, à l'œuvre de Jésus-Christ. » Mais à quelque part, quand je suis rentré cette fois-là, j'étais quand même fier, parce que je n'ai pas ressenti ça comme une insulte, mais plutôt comme la marque que quelque chose avait changé dans ma vie. Après, ça a été un peu plus difficile parce que, quelque part, il fallait accepter d'être différent aussi. Tricher, c'était pas possible. Mentir, c'était pas possible. Alors bon, des fois, c'est clair que, comme tout un chacun, on tombe. Mais là, il y a aussi cette grâce de Dieu qui est là, tout près. Et Dieu nous accompagne. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, je peux dire qu'il l'a été dès peut-être bien avant ma conversion, mais moi je l'ai compris dès ma conversion, qu'il était là tous les jours.
Du début de la Bible jusqu'à sa fin, Dieu promet de demeurer avec ceux et celles qui croient en lui. Et Paul, à travers son témoignage, vient de confirmer la vérité de ses promesses bibliques.
Pour conclure cette émission, nous allons passer rapidement en revue quelques-unes des promesses de Dieu, afin de vous rassurer et vous encourager.
Le prophète Ésaïe annonce de la part de Dieu au chapitre 43, versets 2 et 5 du livre qui porte son nom.
Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te feras pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Sois donc sans crainte, car je suis avec toi.
Ensuite, Jésus rassure ses disciples en déclarant dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20,
« Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. »
Puis, dans la lettre écrite aux Hébreux, l'auteur affirme au chapitre 13, verset 5 et 6,
« Dieu lui-même a dit, « Je ne te laisserai pas, non. » Je ne t'abandonnerai jamais. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que pourraient me faire les hommes?
Chacune de ces citations s'adressait à l'origine à des personnes plongées dans des circonstances fort éprouvantes. Oh, Dieu voulait les rassurer et demeurer avec elles. Ils ne devaient donc pas en déduire du fait de leurs épreuves que le Seigneur les avait abandonnés. Dieu ne change pas. Aujourd'hui encore et en tout temps, il demeure avec nous, quelles que soient nos circonstances.
Nous sommes contents d'annoncer que Paul sera de retour parmi nous la prochaine fois pour nous faire part d'autres leçons apprises durant ces longues années de vie chrétienne.
En attendant, nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.